Leslie Jones au couloir numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie Jones.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 38e Instant Sport et le dernier Instant Sport de l'année. Votre magazine d'actualité sportif lausérien, national et international avec nos basketteurs qui sont de sortie ce lundi. Pas de Luc ni d'Aurélien qui ont pris la grosse tête après leur première victoire de la saison, mais on les retrouvera en 2016. C'est promis, lui, il en met parfois sur le terrain des grosses têtes, mais ne la prend jamais. C'est Laurent Julien, salut.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors, ce week-end, un match ?
Oui, Coupe d'Alu à Rimeys, sur le champ de patates de Rimeys. Mais très bel accueil des joueurs et dirigeants de Rimeys. C'était un match bien sympa. J'étais chargé par le Inesta local, petit métronome là.
Et ouais, ils ont vu quel était l'atout de l'AFL.
Ouais, voilà. Et donc, ouais, du normal. Coup, ils m'avaient mis Inesta, donc c'était pas facile. Ouais, mais donc, on a quand même gagné 2-1, difficilement. Mais on a gagné. C'est le principal au football, messieurs.
Oui, tu es en demi, là.
Un quart.
Un quart. Je croyais que c'était quart, donc. Non, bon,
c'est quart. Alors, Patrick. Salut, Patrick, ça va ?
Ça va. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, tu voulais savoir le tirage au soir.
Ah, je voulais savoir. J'ai cru l'entendre pendant
Paris, Paris-Chelsea, comme l'année dernière.
Ah ben, un bon tirage.
Premier match à Paris, donc bien sûr, puisqu'ils ont fini second.
Ouais. Et deuxième match à Chelsea qui reste sur 10 défaites en 12 matchs en championnat.
Ouais. Ouais. Mais il faut faire attention à ces clubs. C'est
bon, déjà, tu as évité Barcelone et le Bayern. Ouais. Bon, il y a pas mal quand même.
Est-ce qu'on a des gros chocs sinon?
Non, mais pour le moment, je vois que Paris. Ouais. Je vois que Paris. D'accord. Donc tout n'est pas encore sorti.
Montpellier.
C'est pas Montpellier?
Montpellier, c'est dans 5-6 ans.
5-6 ans, ouais. Je te rappellerai que Montpellier était en Ligue des Champions il y a 4-5 ans, ce qui n'est pas
nous, il y a 2 ans.
C'est vrai, mais personne ne s'en souvient.
Personne ne s'en souvient. Ouais, mais on a marqué des points, parce que la dernière Ligue des Champions de Marseille, 0 points.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
0 pointé. Notre invité du jour pour faire un bilan de mi-saison, Philippe Laurère, le président de l'Avenir Foot Lausère. Bonjour.
Bonjour à tous, merci de votre invitation.
Pas de souci. Alors, Chelsea-Paris, tant qu'on y est, on parle de foot. Bon tirage.
Ouais, Chelsea-Paris, oui, de toute façon, à ce niveau de compétition, tout est difficile, mais tout est jouable. Hein. Après, si Paris joue sur son niveau, je pense qu'ils ont largement les capacités de battre Chelsea de cette année. Il faudra jouer sur son niveau et pas faire un complexe face à des équipes qui ont quand même mieux réussi que Paris ces dernières années en Coupe d'Europe.
Voilà, c'est un peu dommage de tomber sur les mêmes que l'an dernier, Patrick, mais bon, comme tu disais, Barcelone, Bayern, il fallait les éviter à tout prix. Hein.
Non, mais si tu regardes, c'est souvent les mêmes clubs, il faut le reconnaître. Maintenant, au niveau de ces huitièmes de finale, il y a des clubs qui sont quasiment incontournables, donc après, ça se joue sur 2-3 clubs qui changent d'année en année, mais sinon, il y a toujours les mêmes. C'est normal, la puissance financière de quelques clubs. Et tu les vois, Manchester City, Barcelone, le Real, le Bayern. Tu es quasiment sûr, même Paris, tu es quasiment sûr que chaque année, ils vont se retrouver en huitième de finale. Bon, donc c'est aussi logique que ce soit toujours les mêmes oppositions qui vont revenir d'année en année.
Donc tu penses que Paris va passer ce tour ?
Ouais, mais il faut être vraiment, à mon avis, vigilant, parce qu'on a vu, bon, le championnat de France, il y a certes un niveau d'écart énorme, mais bon, quand tu vois le match encore du gardien allemand hier, sur le tir du Lyonnais, mais là, ça n'a aucune conséquence, parce qu'ils sont tellement supérieurs, puis le but à l'extérieur compte pas, donc... Voilà, ça passe comme une lettre à la poste, mais en Coupe d'Europe, dans des matchs serrés, chez toi, si tu prends une casquette comme ça, tu peux te mordre les doigts après pour le match retour. Et en particulier, si tu fais ça contre Barcelone ou le Bayern, tu es quasiment sûr d'être éliminé.
Même Chelsea, ça peut être compliqué, un but pris à la maison, à remonter.
Exactement, donc ça va être chaud, mais c'est vrai que Paris l'a fait l'année dernière, alors que Chelsea semblait supérieur à cette année. Donc c'est vrai que là, Paris a les moyens de passer un quart de finale encore cette année.
Il paraît que Paris est sûrement dans Danda pour le mercato d'hiver.
Ben écoute, pourquoi pas, parce que c'est vrai que bon,
ils s'embêtent un peu.
Ouais, non, mais bon,
ils s'ennuient. Hein.
Moi, Marseille,
enfin,
c'est
il a du boulot.
Ah, mais Marseille, c'est mon club, donc je vais pas dire que j'ai pas craché sur Mandanda avec le nombre de saisons qu'il a fait, mais bon, je pense qu'il est quand même un peu au bout de rouleau de son histoire marseillaise, et bon, ça serait pas peu mal qu'il parte. Donc s'il part en mercato, bon, on a Pelé derrière, tu sais, maintenant, ça, à mon avis, ça peut pas kiff. Ouais.
Mais Pelé, il est âgé quand même.
Ouais, mais le Pelé blanc.
Ah, c'est pas le même.
Ouais, le Pelé blanc et ouais. qui joue avec des gants, quoi.
L'Albatros.
Donc, voilà. L'Albatros, exactement.
Mais je pense que Mandanda est peut-être meilleur que Trapp quand même. Mais bon, ça, c'est mon avis. On reviendra.
Je suis pas loin de penser que tu as raison.
En ce moment, il y en a plusieurs qui sont meilleurs que Trapp. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais, exactement. Allez, on va parler de sport lausérien pour commencer avec notre invité. Une belle et importante victoire pour l'équipe une ce week-end. Andachère Languedoc-Roussillon, suite à un doublé de Fadil Gourma, la FL gagne contre Albeurès-Sargelès 2-1. Un match compliqué comme tous les matchs de cette division, hein, Philippe.
Bah ouais, je rectifie, excuse-moi, c'est de la DH, hein, c'est plus la DHR. Ça fait
oui, c'est la
ans.
DH, pardon.
Non, tout est compliqué cette année, hein. Tout est compliqué, on le voit, c'est un championnat qui n'a rien à voir avec ceux des années précédentes, hein, où souvent une équipe ou deux se détachaient, puis c'était une course poursuite, et puis c'était compliqué aussi, mais là, tous les dimanches, vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer. Hier encore, il y a eu des résultats très surprenants, donc faire des pronostics aujourd'hui, c'est quasi impossible, donc il faut se concentrer sur soi-même. Voilà,
on a et sur le match qui vient
sur le match qui arrive.
Il est important d'ici, hein, en plus, celui voilà. Dimanche prochain, à Aigues Mortes.
Hier, on a passé comme il faut l'encombre d'Argelès, parce que c'est une équipe qui avait quand même gagné 3 matchs sur 5 à l'extérieur. Hein, donc on a vu les qualités de ce groupe, un groupe qui a été complètement reconstitué cette année avec l'arrivée de 6 joueurs qui arrivent de région parisienne, donc un groupe complètement nouveau. Bon, on a la chance d'avoir un coach qui connaît particulièrement bien aujourd'hui le football catalan, qui a su déjà les voir plusieurs fois, et ça a dû être aussi un atout pour nous. Mais bon, une belle équipe en face qui nous a donné du fil à retordre, même si on n'a pas concédé grand chose en termes d'occasion, on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt, mais c'est ça toutes les semaines, quoi, voilà.
Alors tu viens de le soulever, et Patrick le dit chaque semaine et le répète, c'est vrai qu'on a la chance cette année de ne pas avoir d'équipe phare qui survole le championnat, hein.
Ben oui, parce que bon, Philippe le sait très bien, sur les résultats à domicile depuis le début de la saison, bon, tu as quand même une contre-performance contre Bavernier, puisque tu t'inclines chez toi, et aussi, bon, aussi un demi-échec, on va dire, tu as ce nul contre Carcassonne, bon, donc deux équipes dont tu sais très bien qu'elles ne vont pas jouer le haut de tableau et qu'elles sont là pour se maintenir dans cette division de la DH, et donc les années précédente, ben, quand tu avais ces faux pas à domicile, ben, tu avais les clubs devant qui partaient, et donc tu te retrouvais de suite avec 5, 6, 7 points, 8 points, et donc après, une deuxième partie de saison, tu étais obligé d'aligner victoire sur victoire, ce qui arrivait. Tu avais parfois 5 victoires, 6 victoires, 7 victoires consécutives, mais tu venais mourir quand même. Voilà, ben, l'année dernière, c'était égalité, où ça s'est joué à 1 point, 2 points ou 3 points, et bon, là, cette année, bon, tu as fait ces contre-performances, mais tu es quand même dans le coup, puisque tu vois, tu es virtuellement premier, bon, même s'il y a des matchs en retard des autres équipes. Bon, Perpignan, un match en retard, mais bon, s'il gagne, il revient à ta hauteur. Bon, tu as perdu là-bas, donc au golavorage, pour le moment, ils sont devant toi, mais bon, c'est anecdotique. Donc c'est là que tu vois que c'est un championnat qui est vraiment passionnant, parce que malgré ses contre-performances, les autres clubs en font aussi, donc ça te permet de ne pas être décroché, au contraire, de mener ce championnat. Donc tous les espoirs, bien sûr, sont permis pour cette saison qui s'annonce vraiment longue, vraiment très très longue, parce qu'on est toujours bien dans les matchs allés qui se termineront pas avant fin janvier, je crois, la fin des matchs allés. Donc on y est pas encore.
Avant de poursuivre, allez, j'ai d'autres.
Vas-y.
Eh oui, Laurent, c'est comme ça. C'est l'information. On est dans le direct. Arsenal hérite du Barça.
Eh bien, tu vois. Donc
bye bye, Arsène.
Et le Real Madrid, la Roma. Donc un beau duel, et la Juventus, le Bayern Munich.
Eh bien voilà, donc. C'est quasiment des finales, là. Tu annonces des finales. Hein.
J'annonce des finales.
Arsenal-Barcelone, on est qu'à 8e, tu annonces déjà des finales.
Bayern, c'est déjà, ça pourrait déjà être une finale.
C'est ça. On va poursuivre quand on aura les autres matchs. On annonçait en début de saison Bagnoles-Pont qui s'était renforcé, qui est d'ailleurs 3e, voire Narbonne, le FC Narbonne qui est toujours présent. Finalement, est-ce que le candidat le plus sérieux serait pas cette équipe de Perpignan OC qui talonne?
C'est Frontignan qui est là.
Aujourd'hui, le candidat sérieux, c'est effectivement
Frontignan.
Il y a plusieurs candidats sérieux, mais Frontignan est effectivement un des candidats sérieux. Ils ont 3 matchs de retard, dont un contre nous.
qui vont perdre, donc ils seront moins sérieux.
Voilà, ce qu'on peut souhaiter.
Il est prévu 9 points de retard pour l'instant.
Mais pour revenir à la contre-performance qu'on a fait contre Carcassonne à domicile, et ben eux ont fait la même hier.
Voilà, donc, c'est ça, c'est
donc
ça.
C'est pas, voilà, c'est, je veux dire, c'est, on peut même plus considérer si on est contre-performance de faire un match à domicile. Les équipes arrivent avec, avec une organisation, une stratégie qui est de pas prendre 3-4 buts à l'extérieur. Carcassonne est très très bien organisé défensivement, l'a montré hier, hein, bon match nul à Frontignan 1-1, alors que Frontignan n'encaisse quasiment pas de but. Donc je crois que voilà, il faut pas se soucier trop de tout le monde, il faut attendre et voir quoi, voilà.
Non mais bon voilà, c'est vrai qu'il y a un championnat hyper serré, et donc ce match à Frontignan va coter, d'ailleurs il est prévu en janvier.
A priori oui mais non. Parce que,
oui parce qu'il y a un match de coupe, il y a la même date.
Parce que la même date est prévue, le match de coupe de la région contre la Grande Motte à domicile. Hein. Et je pense que...
Donc il va te reporter encore un peu plus tard.
Voilà, la priorité sera donnée au match de coupe de Ligue, il faut attendre la décision de la région, de la Ligue. Et par contre, il n'y a pas de date disponible avant le mois de mars pour reporter ce match. Donc ça signifie que le match aller et le match retour contre Frontignan, qui risquent d'être deux matchs décisifs pour la saison, peuvent se jouer à quelques journées ou quelques semaines d'intervalle.
En tout cas, on fait la course en tête. C'est toujours mieux d'être devant.
Oui, bien sûr. On l'a vu ces dernières années. Les deux équipes qui ont fait la course en tête ces deux dernières années sont montées en CFA2. Alors la faire en tête comme eux l'ont faite, eh ben non, on n'y est pas, hein, on n'a pas fait le trou, on n'est pas du tout dans la même physionomie, mais on est devant, et tant qu'on est dans les 2-3 premiers, c'est ce que demande le coach aux joueurs toutes les semaines, on est dans le coup, le moral est là, il n'y a pas de souci, on n'est pas décroché.
L'idée c'est d'arriver dans le Money Time au mois de mars,
bien
calé devant, ouais. Et puis de tout donner en fin de saison. Quoi.
Je pense qu'Amand, on a fait la démonstration ces dernières années qu'on avait la capacité de faire un printemps de qualité. On va retrouver à ce moment-là de la saison un terrain de meilleure qualité, des conditions d'entraînement qui seront aussi meilleures. Souvent, on a des difficultés parce que l'hiver, c'est compliqué chez nous. On a aussi des blessures qui sont... indirectement sûrement lié aussi aux conditions atmosphériques et aux températures basses. Hein. Donc une fois passé cette période, on est quand même bien plus optimiste, hein, et très sincèrement, je pense que... Ouais.
Non mais j'en profite d'avoir le président à nos côtés pour lui faire passer ce message, bon, en tant qu'observateur certes, mais aussi en tant que supporter de cette équipe. C'est vrai qu'on attend la montée en CFA2 pour avoir justement ces réserves professionnelles venir au chapitre. Bon, il y a l'OM, mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir Monaco, Nice, etc. Et donc c'est vrai que bon, cette intersaison elle a été agitée, hein, on en a beaucoup parlé, ça nous a fait un peu peur parce que bon, au niveau des dirigeants il y a eu ces changements qu'on connaît, et puis aussi il y a eu ces changements de coach avec ce départ de Daniel Briard, et donc le coach Massiello qui est arrivé quelques jours avant la première journée, et donc c'est vrai que dans un club si je voulais dire normal, ça aurait pu exploser de tous côtés et la saison pourrait être déjà flinguée entre guillemets. Et donc là, c'est là qu'on voit que la solidité de tout ce qui a été fait depuis des années. Et bon, Philippe, on connaît bien, puisque tu fais partie de ce club depuis la création, depuis la fusion avec Val d'Oise. Donc tu as connu toutes ces histoires. Et donc là, je trouve que vous récoltez justement avec cette intersaison agitée les fruits de tout ce que vous avez mis en place. Et donc on a vu que les joueurs étaient vraiment très concernés, très solidaires entre eux. Et donc la mayonnaise a bien pris avec le coach Massiello. Et je vous tire mon chapeau parce que c'était pas évident. Et il y en a qui pensaient, des observateurs aussi ou des supporters qui étaient vraiment inquiets et qui pensaient que la saison était terminée avant qu'elle commence. C'est pas le cas, loin de là. On vient d'en parler. Donc chapeau à vous.
Tu parles de voir des réserves, tu parles de l'OM, mais elle joue en Ligue 1, la réserve de l'OM, non? C'est pas ça.
Bon, ça c'est un méchant tacle.
Allez, président, vous disiez que personne n'a fait le trou, que c'est compliqué, mais moi je regarde quand même, mis à part Perpignan qui a un match de moins, Bagnol était troisième, vous avez 5 points d'avance et un match de moins. Narbonne est quatrième, vous avez le même nombre de matchs, mais 6 points d'avance. Alors, il n'y a pas d'écart, on est d'accord, mais ça commence quand même à grappiller un peu petit à petit.
Oui, aujourd'hui, si on fait un bilan un petit peu plus précis, en regardant le ratio point match, on va se rendre compte qu'en fait, il y a trois équipes qui se détachent un petit peu, c'est Frontignan, Perpignan OC et la FL.
Ouais.
Ensuite, on a des équipes qui sont très difficiles à bouger aussi, c'est Aigues-Mortes. Hein. On se déplace pour le dernier match, donc avant la trêve. un pays s'aligner. On sait que c'est toujours très compliqué. Aigues Mortes fait toujours partie des 3-4 meilleures équipes. Alors là, ils sont peut-être un petit peu loin.
Ouais, ils sont 11e là.
Il fait la grimace, mais...
Tu es sur un classement qui est pas à jour du tout, ah bon, à mon avis.
Je suis sur le site de la Fédé. Ouais,
ouais, bah écoute, ils sont pas...
Enfin, quoi qu'il en soit, c'est toujours compliqué d'aller jouer à Aigues Mortes.
Non, très sincèrement, c'est une équipe qui, si on rentre un petit peu plus dans le détail de leurs résultats, est invaincue à domicile, 5 matchs, 5 victoires. Et hier, ils ont récolté leur premier point à l'extérieur. Voilà. Donc, ils étaient sur 3 défaites à l'extérieur. Ils ont fait un match nul hier à Canet en Roussillon. C'est leur premier point pris à l'extérieur. Mais à domicile, ils sont intraitables. 5 matchs, 5 victoires. Donc, on sait ce qui nous attend. C'est une équipe qui a recruté en qualité. C'est toujours difficile. Et puis, bon, c'est des matchs rugueux, hein, Aigues Mortes.
Mais contre la Grande Motte, ça a été chaud, là. On en avait un peu parlé. D'ailleurs, c'est ce résultat qui est toujours pas entériné, voilà, mais qui va avoir un match gagné pour Aigues Mortes, ouais, puisque Aigues Mortes avait un pénalty à la dernière seconde et il y a tellement eu d'incidents qu'ils n'ont pas été en mesure de tirer ce pénalty. Et donc, l'arbitre a arrêté le match juste avant que le tireur d'Aigues Mortes, botte le pénalty.
Pourquoi la victoire reviendrait, puisqu'il y avait match nul à ce moment-là, à Aigues Mortes?
Mais parce qu'a priori, c'est la Grande Motte qui a provoqué ces incidents.
Parce que la Grande Motte a refusé de revenir sur le terrain.
A refusé de revenir sur le terrain.
Donc le compte...
Estimant que le pénalty était injustifié, donc ils ont quitté le terrain, hein, c'est ça.
Un peu comme Milan en 93, quand Marseille les a battus aisément.
Étonnant, cette Grande Motte qui a toujours été une équipe difficile à jouer, qui cette année a plus de mal. Hein.
Ouais. Pour le moment, là, ils sont sur beaucoup de résultats négatifs, une spirale très, très inflationniste chez eux. Ouais. En termes de défaite, je comprends pas. Nous, on les a vus quand même solides. Hein. On les a battus, mais en faisant une belle prestation chez eux, on les a vus solides. Et puis là, ils ont l'air de se liquéfier un peu.
Alors, le point positif pour l'AFL, on l'a dit, il y a le problème de l'hiver, des blessures qui peuvent intervenir. On a fait pas mal de matchs sans l'élément numéro un quand même de cette équipe, il faut le dire.
Mais bien sûr.
Vraiment en parler aussi.
Mais surtout que c'est pas arrivé depuis.
C'est la première fois depuis que Fadil est au club.
Hein. Oui, qu'il est absent aussi longtemps, en particulier sur blessure.
C'est le constat que faisait un peu Christian Matiello. Hein. Bon, il a récupéré une équipe qu'il connaissait pas du tout. Hein. Il connaissait deux noms, Fadil, et il connaissait personne d'autre dans le groupe. Il l'a retrouvé avec une préparation qui avait été faite par un entraîneur qui ne travaillait pas dans les mêmes conditions. Non, je ne veux pas dire un guignol parce que je ne me permettrai pas, mais chacun a sa façon de préparer une équipe. En tout cas, on a pensé que tout n'avait pas été fait de la meilleure des façons au vu et au constat de la baisse de régime qu'on a pu avoir début novembre. Donc c'est ajouté à ça à la blessure de Fadil. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même fait le dos rond pendant quelques semaines. Bon, il y a certes cette défaite à Perpignan aussi, mais bon, très très belle équipe Perpignan aussi, on en reparlera, mais très très belle équipe. Et donc on a fait le dos rond. Aujourd'hui on est sur les bases en tout cas qui nous permettent d'y croire encore, bien sûr.
Bon, sans dévoiler les secrets, mais bon, une petite question. Est-ce que toi, en tant que président, tu as pu t'expliquer quand même avec Bréard? Est-ce que tu as eu cette conversation d'un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure pour vraiment savoir où est-ce que vous êtes vraiment quitté comme ça de manière abrupte? Enfin, bien sûr, de sa part, puisque son départ, bien sûr, a été plus que précipité.
Non, on s'est pas quitté de manière abrupte. Il nous a quitté de manière abrupte.
C'est ça.
On s'est dit bonsoir un vendredi soir après un match de préparation à Anduze. On s'est souhaité un bon week-end et on s'est dit à lundi. Et puis, lundi est arrivé.
Vous n'avez pas dit lundi de quelle année?
Voilà, c'est ça. Il ne nous a pas parlé. Et puis bon, derrière, je ne veux pas rentrer du tout parce que je ne suis pas le genre de rentrer dans les polémiques. C'était rien du tout. Mais bon, il nous a reproché des choses qui sont dérisoires, style. Enfin, puis des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, qui sont méchantes. Je ne suis pas là pour faire les chiottes à l'AFL. Nettoyer des vestiaires, c'est pas mon truc. Enfin, on lui a jamais demandé ce genre de choses. Effectivement.
Laurent qui le fait normalement.
Voilà. Laurent le fait bien.
Il le fait bien. Il est confirmé à son poste d'ailleurs.
Merci. Le garde. Non, je crois que voilà, il avait un autre projet. Tant mieux pour lui s'il a un projet, mais après, derrière, on se cache pas derrière des histoires qui ne sont pas. C'est ridicule. Je pense pas qu'il ait amélioré son image ce jour-là.
Voilà. Oui, on passe, et d'autant plus qu'on peut le dire maintenant, après 6 mois, vous êtes satisfait de...
Ah ben nous, c'est un bien pour un mal.
De ce nouvel entraîneur.
C'est complètement ça. On pense qu'en tout cas, derrière, une solution bien meilleure et plus durable est en train de se mettre en place. Voilà, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est compétent, qui est beaucoup plus dans l'ouverture, dans la discussion, qui fait avancer les garçons, qui connaît bien le football, qui arrive d'un niveau supérieur. Donc, il faut aussi s'adapter au niveau de la division d'honneur. Hein. C'est pas ça marche dans les deux sens. Hein. Quand on a géré des pros, on a toujours l'impression que peut-être on peut être d'une exigence très élevée à un moment donné.
Il
faut remettre les pieds sur terre. On est quand même dans un milieu amateur, même si.
Même si le niveau est relevé.
Même si on est sérieux, c'est bon, les gars bossent et voilà, donc c'est clair. Hein.
Laurent,
on parlait d'images. Juste une petite info. Il y a
vendredi
le magazine L'Équipe qui est venu cette semaine faire un reportage qui sera diffusé donc de la semaine du 1er janvier.
L'Équipe 21 ou l'Équipe papier?
L'Équipe papier.
Ah bien.
L'Équipe magazine.
Journal L'Équipe, okay. Qui est venu mettre en valeur le club de l'AFL. Donc a priori une double page dans L'Équipe, messieurs. Et donc Philippe intervient. Le sujet, c'est sur les petits clubs qui ont fait un parcours en Coupe de France. Pour savoir ce qu'ils sont devenus depuis, comment ça a évolué ou pas.
Ah génial. Ouais.
Donc, c'est bien. Voilà.
Super. Donc l'équipe a choisi cinq petits clubs qui ont réussi dans les 7 ou 8 dernières années un gros exploit en Coupe d'Europe, en Coupe de France pardon. Coupe d'Europe, ça sera plus tard.
C'est Marseille. C'est dans 2 ans.
C'était 76.
Donc ils sont venus ici pour prendre de l'information auprès des gens qui étaient en place à ce moment-là, auprès des gens qui sont en place aujourd'hui. Ils ont rencontré des joueurs, ils ont rencontré le coach de l'épopée, ils ont rencontré les dirigeants de l'époque et ceux d'aujourd'hui. Et donc c'est M. Régis Dupont qui est venu, qui est parti samedi matin et qui l'après-midi était sur le plateau en direct de l'équipe 21 pour commenter le tirage au sort de la Coupe d'Europe, donc du championnat d'Europe. Donc c'est vrai qu'on a été surpris de cette volonté de l'équipe de parler de nous. Et c'est très sympa. Je crois que voilà, ils ont constaté en tout cas. Et la première remarque que nous a fait le journaliste, c'est de dire qu'il était surpris de voir que finalement tous les joueurs de l'époque étaient quasiment encore là, quoi.
Et ouais,
que les dégâts, il y avait eu très peu de chamboulement à ce niveau-là. Et c'est parfois pas le cas après des belles épopées, quoi. C'est quand même l'après Coupe de France, c'est souvent quelque chose de difficile à gérer dans les clubs amateurs.
Ouais. Mmh. Ah, ça peut être aussi un bien pour après un mal, tu dis. Bon, c'est vrai que pour certains clubs, ils font une super épopée, puis les années d'après, le club s'effondre, il peut même descendre d'une ou deux divisions.
Et les joueurs partent, etc. Voilà. etc.
Ouais, c'est ce qui est arrivé à Calais, hein, notamment, qui a fait une autre épopée que nous, bien sûr, mais enfin, qui a eu des lendemains très douloureux.
Ils t'ont posé des questions, Laurent?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais j'étais pas du tout acteur, hein, moi, de cette épopée.
Oui, non, mais t'es quand même une figure de l'AFL.
Oui.
Hein, ouais. Pourrait venir te questionner.
Non.
Mende de l'Avenir Foot Lozère, premier avec 32 points, 10 matchs. Perpignan, 28, 9 matchs. Bagnoles-Pont, 27, 11 matchs. Narbonne-Fu, 26, 10 matchs, etc. etc. Donc, on ne va pas en dire plus. On a bien parlé de l'équipe 1 de l'AFL. Alors, par contre, si la 1 marche bien, ça ne va pas du tout dans l'équipe 2. Défaite encore ce week-end en PHA Gare Lozère contre Saint-Christol, 3 buts à 1. L'AFL, l'équipe 2 qui se retrouve 11e sur 13 avec 18 points. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe, Président?
Eh bien, cette équipe, c'est difficile parce qu'on était sur 2 années, de montées successives de PHB en DHR jusqu'à l'an dernier, puis une année de division d'honneur régionale qui a été difficile, douloureuse. Hein. C'était la première fois que l'équipe réserve accédait à ce niveau de compétition. Ça a été très difficile l'année passée parce que le niveau atteint est compliqué, parce que les exigences sont nombreuses, parce que la gestion du groupe n'a pas permis en tout cas à ce moment-là d'y arriver. Et puis cette année, on est reparti avec une équipe complètement chamboulée, avec beaucoup de jeunes. Hein. On aurait aimé aussi que certains cadres puissent encadrer justement ces jeunes. Ça se fait pas pour le moment. Et puis on subit encore malheureusement énormément de blessures depuis le début de la saison. Et les blessures, eh bien, on sait que ça a des conséquences énormes sur le groupe 1, mais bien plus sur un groupe 2. Hein. Ce week-end, il manquait 6 joueurs à l'appel dans le groupe compétition. Donc ça signifie que c'est 6 joueurs de moins en groupe 2. Quoi. Clairement, c'est ça. Donc 6 joueurs, c'est la moitié d'une équipe. Quand on sait que des joueurs comme Vladimir Petkovic sont blessés quasiment depuis le début de la saison, Thibaut Barandon est déjà blessé depuis plus d'un mois, Johan Ponce peine à revenir parce qu'il cumule aussi les blessures, Voilà, Benjamin Almeras maintenant depuis déjà 15 jours, Nicolas André aussi. Enfin bon, ça fait beaucoup et c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un groupe très compétitif en équipe réserve. On avait bien débuté la saison. Maxime Tessier s'en est bien occupé, il n'y a pas de souci du tout à ce niveau-là, mais bon, aujourd'hui, on est avec un groupe qui n'a pas l'expérience de ce niveau-là pour la plupart des joueurs, et à mon avis, c'est très compliqué.
Pour preuve, ce week-end, Maxime a dû prendre, alors, si je ne me trompe pas, 3 U19 qui sont venus compléter l'équipe, qui ont d'ailleurs bien joué, mais c'est des très jeunes joueurs, on n'est même plus dans les jeunes joueurs, dans les très jeunes joueurs.
Pourquoi il ne prend pas les U37 ?
Les U37, j'y suis pas.
Les U38.
After 37, moi. Non, donc bon, voilà, c'est sûr que ça va être très compliqué en PHA. On sait que c'est une division où l'aspect physique compte énormément. Et donc, si t'as pas du gabarit, un peu du mec qui rentre, quoi, et qui marque des buts aussi, parce que bon, on se rend compte qu'on a. On a une difficulté à marquer des buts. Et donc, c'est quand même la finalité première du football, quoi.
Puis pour rajouter juste à nos difficultés cette année, je crois qu'on a une PHA qui est extraordinairement relevée, quoi. On a l'équipe du ZES qui jouait il y a 3 ans en national, ouais. Qui est quand même première là. On a une équipe de Rousson qui s'est renforcée avec des éléments qui jouaient sur Alès en CFA2. Voilà, Saint-Christophe fait partie des belles équipes, Val-de-Seize aussi. Enfin, c'est d'un niveau bien supérieur à ce qu'on a connu ces dernières années en PHA. Bon, ça n'enlève rien à nos difficultés, mais bien sûr, ça c'est une raison supplémentaire, en tout cas, pour justifier notre piètre classement.
Non, mais dans tous les clubs, une réserve, on sait que c'est toujours compliqué. Ça dépend bien évidemment de tout ce qui se passe dans l'équipe 1. Et bon, ça revient, n'importe quel club, on peut tous les prendre. On est confronté chaque fois au même problème, les suspensions, les blessures. Bon, ben, il y a des joueurs qui parfois, ben voilà, sont pas là, sont pas disponibles le dimanche, et donc tout ajouté, ben ça se répercute sur l'équipe 2. Bon, voilà, donc c'est pour ça que. Bon, l'année dernière, on va pas revenir aussi, mais l'année dernière, c'est vrai qu'un des reproches qui a été fait à Stéphane Sora, ça a été quasiment d'avoir laissé tomber cette équipe 2. Mais bon, voilà, il fait comme tous les coachs qui ont en charge d'une équipe Fagnon. Bon, mais évidemment qu'il va prendre les meilleurs joueurs. Marcelo, il va pas dire maintenant là, alors qu'arrive, il a 6 joueurs blessés, il va pas dire il y a encore 2 que je vais laisser à la réserve, comme ça va me faire 8 joueurs en moins et pour jouer contre Argelès. Ben Argelès, il prend ses 13 ou ses 14 meilleurs joueurs qu'il a à disposition. Il fait comme tous les coachs d'équipe 1. Enfin, il me semble bon, parce que je me trompe. C'est vrai que moi, je suis pas à l'intérieur du club, donc on connaît pas tous les arcanes. Mais moi quand même, je connais le football. J'ai été dirigeant pendant 19 ans de DHR. J'ai connu plusieurs entraîneurs. J'ai jamais vu un entraîneur d'une équipe 1 qui disait au sud de la 2, bon, ben écoute, j'ai 5 absents aujourd'hui, ben je t'en laisse encore 2 de plus et moi je fais 107 joueurs. Et voilà, chaque entraîneur, il prend les 13 ou 14 meilleurs qu'il a à disposition chaque week-end pour son équipe 1. Bon, au moins, c'est sûr, s'il est sauvé à trois journées de la fin, c'est pas la même musique. Mais quand il y a au cœur d'une saison, des matchs, tous les matchs sont hyper importants, des championnats hyper serrés, c'est normal, tu prends ta meilleure équipe, et la réserve, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord. Ça existe dans tous les clubs et ça concerne tous les entraîneurs, il me semble.
Allez, avant de continuer, les 8 affiches, ça y est, c'est fini, les 8 affiches de cette Ligue des Champions. Le match pourri que personne ne regardera par les supporters de ces équipes, eh bien la gantoise Wolfsburg. Ah. Voilà. La Roma, Real Madrid.
Ça, c'est pas une finale.
Hein. PSG, Chelsea, Arsenal, Barcelone, Juventus, Bayern, PSV, Eindhoven, Atlético Madrid. Autre match, Benfica, Zenit, à part d'être supporter de ces équipes, Dynamo de Kiev, Manchester City pour finir. Voilà, et l'UEFA, c'est maintenant, donc on sera. Ils sont qualifiés, Marseille ?
Oui. Et Saint-Etienne aussi.
Marseille et Saint-Etienne, 3 équipes à éviter, Liverpool, Manchester United et Naples.
Ouais, parce que les deux sont pas tête de série, donc tu vas te prendre.
Ah oui, tu vas te prendre un qui descend. Au niveau des jeunes, ça marche bien, les catégories de jeunes à l'AFL ?
Ouais, je crois qu'il y a du travail d'accompli. Ça fonctionne, hein, évidemment. Sur les jeunes, on est un petit peu plus dans la difficulté sur certaines tranches d'âge. Hein. Ça, c'est inévitable. Il y a des générations qui sont plus fournies que d'autres. On a aujourd'hui, en tout cas sur les U19, donc la catégorie entraînée par François Faye, de très bons résultats. Hein. On a été qualifié en Coupe Gamardella. On a joué un 6e tour qu'on aurait dû gagné contre l'AS Béziers la semaine dernière. Bon, on a perdu 1-0 chez nous, une expulsion un petit peu sévère et un manque de chance flagrant en première mi-temps.
Un pénalty raté.
Un pénalty manqué, une tête sur la barre. Enfin bon, on va pas revenir hein, contre une belle équipe de Béziers aussi, hein, qui méritait également bien sa qualification. On va pas le leur reprocher. Je crois qu'en tout cas, on a ce niveau-là de catégorie, donc sur cet âge-là, du beau monde, hein, justement. Je crois que ces jeunes-là, on peut s'appuyer sur eux pour faire progresser la PHA, mais il faut pour les encadrer, il faut encore une fois, il faut des joueurs d'expérience, et c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. On a la qualité, on a le nombre, on a ces jeunes, hein, on veut bâtir autour d'eux, justement. Je pense qu'une réserve, c'est le but d'une réserve, c'est ça, hein, c'est de faire confiance à ces jeunes joueurs.
C'est vrai.
Aujourd'hui, on veut vraiment s'appuyer sur eux, mais encore une fois, il manque le petit, voilà. Le petit plus, c'est-à-dire un ou deux joueurs par ligne qui pourraient apporter cette expérience supplémentaire, et on l'a pas à tous les niveaux. Voilà.
Dans le 19, il y a le coach François Fay, hein, et donc vendredi dernier, dans la Lausanne Nouvelle, il y a un superbe portrait réalisé par Bernard Vanel, qui fait aussi partie des dirigeants de l'AFL et qui est correspondant pour la Lausanne Nouvelle sur la ville de Mende. Et donc, voilà, il explique le parcours absolument incroyable de François Fay, du Sénégal, bon, jusqu'en France et en particulier à Mende. C'est passionnant à lire. Bon, je vous le conseille vraiment. C'était vraiment très bien écrit. Et puis, ça donne une super image de François que tout le monde connaît. Et vraiment, savoir vraiment son parcours de vie, quoi.
Et si vous voulez en savoir plus, l'idéal, c'est même d'en discuter avec lui, parce que c'est un garçon formidable qui se régale de raconter sa vie sans tout modestement, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment cette première qualité, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il nous accompagne depuis quasiment le début de l'AFL. Et franchement, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Ouais.
Ok, ben merci beaucoup, Président, d'être resté avec nous. On va passer aux autres sports, il est déjà 1h. On vous laisse y aller, on sait que vous avez des rendez-vous professionnels par la suite. En tout cas, c'est gentil d'être venu. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je proposais à Philippe de rester un petit quart d'heure de plus.
Ah ben là, on va pas faire de pause musicale, on s'arrête
oui.
pas.
Hein.
Ouais. Bah, si tu veux rester, tu peux rester.
Non, mais hein. Je vais rester. En tout cas, je vous remercie. Je trouve que c'est sympa, votre émission. Bon, je l'écoute de temps en temps, j'ai pas forcément toutes les semaines, mais en tout cas, je trouve l'idée est très belle et très bonne, et puis ça permet à chacun d'entre nous, modestement, de parler de notre passion.
Voilà. C'est
à vous.
C'est le but.
Voilà, c'est d'ailleurs, rappelons que l'idée vient de toi, Ludo. Hein. Rendons à César ce qui est à César. Oui. C'est toi qui as eu l'idée de cette émission.
Un peu poussé par Laurent, mais c'est vrai. Allez, on va parler des autres sports. On va rester en foot avec Marvejols qui obtient le match nul contre Beaucaire, 2-2 à domicile, mais qui reste en course quand même pour la montée, qui est quatrième avec 25 points et 2 matchs de moins par rapport au FC 7 qui a 34 points, qui est premier. Tout reste jouable. En plus, il y a une réserve, le FC 7, donc je ne sais pas s'ils peuvent monter ou pas. S'ils doivent
si.
Pouvoir.
Ouais.
Ouais. Donc ça va être compliqué, mais en tout cas, ils font un bon début de championnat sur une division qui n'est pas facile pour eux.
Patrick. Oui, c'est sûr. Bon, 2-2, bon, voilà, tu peux avoir peut-être une petite déception parce que tu es à domicile. Bon, Beaucaire, ils étaient aussi dans la deuxième partie de tableau, mais bon, Marvejols est un promu. On connaît aussi là toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, donc c'est super. Et donc une petite anecdote, les deux buts inscrits par Beaucaire. Donc le buteur, c'est Djamil Benchaleb, et donc il a joué pendant plusieurs années dans mon club, à moi, à Barbantane, donc je le connais très bien. Il est tout petit, mais il va à 2000 et a un sens du but extraordinaire. Et puis c'est un gars vraiment génial. J'ai des super souvenirs avec lui. Et bon, donc je sais qu'il m'écoute pas, mais autant je vais dire d'écouter bien sûr sur internet. Donc je lui fais un gros clin d'œil. Et voilà. C'était vraiment un super joueur. Il est d'Arles, il habite Arles, donc c'est pour ça. Ben Beaucaire, Barbantane, Arles, c'est pas très loin. Et donc il a tourné dans tous ces clubs là. Et bon, vraiment, un super attaquant, toujours avec son père qui suivait les matchs. Bon, voilà, j'ai un peu des frissons parce que ça me fait penser à tous les bons moments qu'on a passés ensemble en DHR, en Ligue Méditerranée.
Tu peux pas faire recruteur, toi, ramener des joueurs un peu là?
Non, mais c'est un joueur, franchement.
Vaucluse.
Moi, c'est les Bouches-du-Rhône, mais on fait partie du Rhône d'Urance. Mais bon, c'est vrai que ça ferait un duo merveilleux que Fadil, parce qu'il est aussi très technique, hein, et il tournerait autour de Fadil. Et bon, c'est vrai que, bon,
ça pourrait faire un beau joueur pour la DH à Mende sans problème.
Il va falloir que tu donnes des infos un peu, hein, Patrick. Hein. Je ne le garde pas pour toi. Marvejol qui est éliminé de la Coupe Lozère par Badarou, ça c'est une surprise.
Ben oui, ça a été une surprise. Un joueur en semaine, bon, défaite 1-0, mais bon, Badarou marche très bien aussi cette année. Mais c'est vrai qu'on pensait que Marvejol avait le moyen quand même de passer.
Une Coupe Lozère surprenante, puisque bon, il n'y a plus Marvejol, il n'y a pas eu l'UNL
qui n'a pas pu s'engager.
De s'inscrire. Mmh. Une Coupe Lozère un peu au rabais cette année.
Plein de surprises, et c'est vrai que les clubs de division n'ont pas répondu présent, donc ça va se jouer. Langogne aussi est éliminé, donc c'est vrai que ça va révéler un peu des clubs surprises.
Hein. Ouais, ce n'est pas au rabais, hein. Mis à part l'ONL qui n'a pas pu se qualifier, les autres étaient présents.
Ouais, tu n'auras pas une finale de niveau DH, ce que je veux te dire.
Tu as la réserve qui est de la FL qui est en demi. Donc tiens Badarou, et après je sais plus, je crois qu'il y a Saint-Georges encore en course, le Buisson.
Nos amis de Saint-Georges. Ouais. Ok, très bien. Badarou d'ailleurs qui a perdu 4-3 à domicile, contre Gaillargues, qui au classement reste 5e avec 27 points, le premier à 31 points.
Mais Badarou qui avait battu Marvejol en Coupe Lozère. Oui. Comme on vient de dire,
c'est ça. Mais qui vient de perdre en championnat. Voilà. Langogne a gagné. Alors ils sont éliminés, mais ils ont gagné en championnat facilement, 4-0, contre le dernier. Doublé de Manu Lyon, Anthony Bonnefille 1 but et Grégoire Gaudin 1. Et il reste second au classement derrière Brive qui a 35 points. Eux en ont 32, donc
ils ont un match en retard.
Ils ont un match en retard.
Qui vont jouer dimanche. S'ils gagnent, ils passent premier.
Ok, alors on les attendait sur le synthétique de Saint-Alban pour leur premier match, leur première victoire, c'est loupé.
C'est loupé.
Un 2-0 contre Domera, deux buts rapprochés à la 70e et 77e en fin de match. Tu as eu des échos du match, Patrick ?
Peut-être un peu de pression. Hein. Laurent a plus d'infos que moi sur le NL, vu les contacts qu'il a avec certains joueurs. Mais bon, moi, ce qu'on a dit, c'est que je pense qu'il y a eu une surcroît de pression un peu. Pour inaugurer ce nouveau stade, cette nouvelle pelouse en particulier, et donc un peu tétanisé, pas le même jeu que d'habitude, et puis bon, une équipe aussi qui était quand même costaud en face, et donc une défaite un peu surprise, inattendue en tout cas.
Voilà, Vivien m'a surtout parlé de l'équipe adverse de Domera qui a été vraiment au-dessus, et donc il y a peu de regrets finalement par rapport à cette défaite, par rapport aux joueurs de l'ENL, qui reconnaissent bien volontiers la supériorité de Domera. Par contre, il reste encore un match à jouer, c'est à Saint-Flour le week-end prochain.
Oui, samedi, je crois qu'ils ont avancé le match à samedi.
Alors ça, je ne sais pas. Du coup, Vivien me dit, 6 victoires, donc tu es classé dans les 5 premiers, et 6 défaites, tu es dans les 4 derniers, quoi.
C'est ça.
Donc voilà. Très
là aussi,
important.
C'est hyper serré.
Hyper serré.
Comme la DH du Languedoc.
Comme la Ligue 1. À part la première place.
Oui, à partir de la deuxième place.
Voilà, à partir de la deuxième place. Ouais, ouais. L'ENL qui est 10e avec 27 points, mais le premier a que 32 points. Donc ouais, on voit vraiment l'écart minime. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ?
Il me demandait de dire un petit mot aussi par rapport à leur équipe U19 qui est passée en Coupe Gambardella à Paris-le-Monial. Et qui recevra donc le 10 janvier le Gazélec d'Ajaccio, donc à Saint-Chély ou à Saint-Alban.
Mmh. Ouais, je l'avais vu ça, cette info. Ouais. Voilà. C'est
donc,
très bien. Ouais.
Bravo aux jeunes de l'ENL aussi.
Ok, on passe au volley. Le MVL continue sur sa lancée, gagne à Saint-Etienne 3-7-0. Non, à domicile contre Saint-Etienne, ouais. C'était ce dimanche à 15h.
Dimanche après-midi.
25-18, 25-21, 25-16. Donc au classement, solide leader, 30 points. Le second, Arles, à 24 points. Bon voilà, il n'y a rien à dire de plus. Hein.
Non, c'est la promenade de santé. Et puis, si tu regardes à chaque fois, l'entraîneur adverse répète la même chose. Une équipe au-dessus, avec des joueurs plus expérimentés, et donc qui peut tenir tout le match à un niveau élevé, alors que les équipes adverses peuvent tenir sur certaines séquences, mais pas sur un set entier. Et donc, ça fait des scores vraiment très... très sévère, parce que quand tu marques 16 points au volet, Philippe, ça veut dire que tu en prends une bonne. Et bon, Puigouzon en plus a perdu, donc Puigouzon n'est pas dans les 4, c'est important, comme ça on peut arriver en deuxième phase avec quasiment.
Et heureusement que Puigouzon a perdu, parce que Toulouse avait perdu contre Narbonne.
Voilà, c'est vrai.
Heureusement.
En attendant, je pense que la véritable saison va commencer pour ces volleyeurs en deuxième phase, hein, uniquement. Donc c'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas se planter. Ouais. Évidemment, le classement est établi avec les résultats entérinés sur la première partie. Donc il y a plein de choses qui sont un peu aléatoires. L'an dernier, ils sont descendus uniquement...
Pour une défaite.
Uniquement pour une défaite à domicile qui aurait dû être une belle victoire.
Et oui.
Donc quand j'en parle avec le président Mouton, il a énormément de regrets évidemment. Il sait que c'est compliqué. C'est un règlement qui peut être très favorable comme très défavorable. Donc voilà, il faut attendre cette deuxième partie de saison avec probablement la réception de Monaco.
Oui.
Monaco, une très belle équipe de Monaco, ouais, qui renaît de ses cendres en volley-ball et qui aspire à jouer à un très haut niveau très prochainement. Donc de belles rencontres en prévision en deuxième partie de saison à Mende. Moi, je suis un supporter de tous les sports mandois, mais en particulier du volley. Et j'avoue qu'on se régale régulièrement quand même. Hein.
Et donc Philippe Abordé, on peut là aussi, mais c'est plus tangent. Mais il peut y avoir peut-être, il faut avoir les résultats, mais la réserve de Nice. Et donc dans cette réserve de Nice, il y a le fils de Jean-Marie Velay, et donc le frère d'Anthony, Kevin, donc qui a joué bien sûr plusieurs années, qui a été formé ici au MVL, et donc qui est au centre de formation de Nice depuis maintenant deux saisons. Et donc si Nice arrive à se qualifier en play-off, ça pourrait y avoir un duel fratricide entre les frères Velay.
On va voir ça, ouais. En attendant, les filles continuent de gagner 3-7-1 contre des concurrentes directes, en l'occurrence Latte, les féminines qui restent premières hein, de cette poule. On les suit, on va espérer que pareil elles passent en play-off. Voilà pour.
Tu peux donner la parole à Philippe.
Elles sont évidemment en play-off, que des victoires depuis le début de la saison.
Oui.
Ça serait ballot de ne pas arriver en play-off quand même.
C'est sûr. Mais je crois qu'il n'y a que le premier de chaque poule qui passe en play-off après. Non, c'est pas ça, Philippe.
Je ne connais pas exactement le règlement. Il y a trois poules de régionales pour une accession de deux équipes en prénat, je pense. Donc je pense qu'il va y avoir des rencontres croisées entre les trois poules. Je pense que les deux premières doivent être concernées. Après... je ne sais pas trop comment ça va se passer.
Ouais, c'est compliqué, franchement. Je me souviens plus ce qu'Amal avait expliqué.
Il y a un groupe qui, en tout cas, a la qualité, à mon avis, pour y arriver. Hein. Un groupe qui est composé de seniors et puis de beaucoup de juniors, hein, de beaucoup de filles de 17-18 ans. Aujourd'hui, la mayonnaise est en train de prendre. Voilà, il y a une belle
équipe. Elles sont toujours qualifiées en coupe
Elles sont qualifiées en coupe de France. M20, ouais, donc moins de 20, ouais. Moins de 20 ans. Et elle joue le week-end qui arrive à Béziers contre une équipe qui est une des favorites pour le titre de champion de France, M20, Béziers. Et la deuxième équipe, puisque la Coupe de France, ça se joue à trois équipes avec deux qui sortent, hein, deux qui sont qualifiées et une qui est éliminée. Et la troisième équipe, ce sera Istres. Donc Istres, qui a une ancienne joueuse qui a été formée à Mende. Voilà.
Décidément, comme partout.
Coralie.
Coco, tu veux dire.
Alors, son frère...
C'est Bourdon.
Voilà, c'est ça. Voilà. J'avais oublié le nom. Donc, qui est ravi de rejouer contre ses anciennes copines de Mende. Donc, de belles rencontres. C'est dommage que ça ne se joue pas à Piancourt. Le tirage au sort a désigné Béziers pour cette rencontre. Et ça va se jouer, donc, dimanche. Dimanche, en terre biterroise.
Non, mais quand tu vois que tu situes Béziers et Istres, les équipes seniors de ces deux clubs, elles jouent en première division. Et Béziers, régulièrement, même parfois, fait la Coupe d'Europe. Donc, c'est dire le niveau de ces deux clubs. Quoi.
Absolument. Allez, on passe au rugby. Mende perd à Cruzy-Saint-Chinian 23-12, malgré 4 pénalités de Vessade. Voilà, une défaite pour le rugby. En handball, victoire importante de l'équipe 1 à Latte, 26-23. Mende qui reste seconde du classement, mais avec un match de moins, sachant que les premiers, les cheminots nîmois qu'ils ont battu la semaine dernière, a gagné ce week-end contre l'étonnante équipe de Marguerite, 26-25.
Dommage.
Ouais, dommage d'un petit but. Tu as eu des infos sur ce match, Laurent?
Je sais qu'il y avait 11-11 à la mi-temps, avec un gros match de Gaëtan Roche dans les buts. Petite anecdote, donc il y avait 11-6 à 5-6 minutes de la mi-temps pour nous, pour les Mandois. Et puis patatrac, 5 contre 11-11 à la mi-temps. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, Pascal Daudet a poussé une bonne gueulée à la mi-temps, qui a réveillé un peu tout le monde et ses attaquants. Donc, victoire importante. On pensait qu'elle serait quand même plus large. Là maintenant arrive la trêve avec une seconde place, mais un match à moins à Aramon qui est avant-dernier. Donc un match n'est jamais gagné, mais c'est quand même plus facile d'aller gagner chez l'avant-dernier que notre équipe. Donc voilà, bravo à la première partie du championnat du MGC.
Un deuxième mi-temps, ça a été chaud aussi, parce que même si tu as quasiment fait toujours la course en tête, il y a eu 2 buts, 3 buts ou 4 buts, et sur la fin, je crois qu'il y a eu 23-22 ou 24-23, donc là, tu étais revenu à un but, là pareil, à 5-6 minutes de la fin, donc il a fallu vraiment serrer le jeu pour s'imposer. Un match piège, il l'avait dit, le coach, et donc ça a failli être le cas, et heureusement que ça n'a pas été le cas.
Défaite par contre des féminines à Bellegarde, 26 à 22. Donc voilà, saison plus que compliquée, on en parle chaque semaine, et ça se confirme semaine après semaine.
Il y a eu un gros match de Raphaël Voringer, qui n'a pas l'habitude d'être un buteur, et là, d'après ce qu'on m'a dit, il a fait 6 sur 7 au tir, donc je crois que c'est le meilleur buteur d'ailleurs de l'équipe sur ce match-là.
Avec les ailiers, avec Kevin Bocanegro qui a marqué
5, voilà. Mais bon, voilà. Les ailiers ont été moins efficaces que sur les matchs précédents, mais bon, il avait dit quoi, le jeu demande et étudier.
Enfin, le résultat du week-end en basket, le BCM obtient sa
première
victoire.
Ils sont pas là, ils ont fait la fête, c'est pour
ça. Ils sont pas là, avec 4 points d'écart, 55 à 51, sachant que Luc a marqué 4 points, Patrick, donc
c'est
si
pour ça.
Tu suis mon raisonnement, voilà. C'est grâce à Luc que le BCM a gagné.
Non, mais ça l'a piqué, parce que j'ai dit, il avait parlé la semaine dernière d'un joueur qui venait de signer, donc il avait marqué 9 ou 10 points, donc j'ai dit, il a marqué autant de points que toi en 4 ou 5 saisons. Donc ça l'a bien motivé.
Ça l'a vexé.
Ça l'a vexé, ça l'a motivé, et donc il a fait 4 points.
4 points.
Voilà. Et donc, du coup, tu gagnes 4 points, donc c'est vraiment le facteur X.
Voilà. Le facteur X qui serait peut-être Turatello, notre ami italien, où on a vu une belle vidéo la semaine dernière d'une belle faute technique qui a marqué 21 points ce match-là, et c'est contre Rousson.
Et oui.
C'est pas contre Mons, l'équipe qui est nulle comme eux. Non, c'est une équipe qui est pas mal. 51-55, c'est peut-être un nouveau départ.
Certainement.
C'est le grand départ.
C'est le grand départ. Ok, allez, merci. On fait une petite pause musicale rapide. On va parler un peu de l'Euro après, de l'Euro 2016 en France.
A fever to empty closet. I didn't think it would be that high. You gotta do what you want now, see. Go low, it's hard to do it a fight, see. I'm gonna scream 100,000 words. Now that your fever is long gone. Your wishes I couldn't tell. I don't hear you talking but pretending, see. My future and the fortune to keep without any safety procedure in mind. All of the things in the main hall you told me to get rid of them. So sold an ugly necklace uptown. I found out it was Egyptian. I tied up your letters, buried them all with dedication. Say, ain't that enough? Pretend not to talk too much too. Sacrifice all of my agenda. I had a fever to empty a closet. I didn't think it would be that hard. You gotta do what you want now, see. Though we'll always have to do it apart. Ain't that enough? Talk it all. It's all lies, misunderstanding.
Et bon. Nous voilà de retour. Toi, tu vas arrêter de parler quand on relance l'émission. Écoute la musique et rends-toi compte quand elle s'arrête, Laurent Julien. Alors, on a un petit problème, on s'est trompé. Merci Aurélien Lacasse qui nous écoute attentivement de Paris. C'est bien contre Mons que le BSM a gagné. En fait, c'est Mons-Rousson. C'est une entente. Alors, comme on, sur les calendriers, les classements, ils marquent que Rousson, on s'est fait avoir.
Voilà, on s'est fait avoir. Exactement.
Hop, je t'ai pas branché le micro, tiens.
Ah, on s'est fait avoir, c'est vrai.
Bon, mais voilà, en tout cas, ils ont gagné, c'était l'essentiel, et il faudrait être nombreux au match retour pour les supporter, pour qu'ils aient deux victoires dans l'année. Peut-être plus, on sait pas. Allez, on va parler de football. On vous dira quand la Ligue Europa tombera. Pour l'instant, quelques affiches de ces huitièmes de finale, de ces 16e de finale, avec Tottenham Fiorentina, Valence Rapide de Vienne, ou encore Dortmund Porto, Fenerbahçe chez Lokomotiv Moscou.
C'est des... Il y a des gros matchs. Ouais. Il y a des gros matchs, ouais.
Malheureusement, United n'est pas encore tombé. ce qui m'inquiète un peu.
Oui, mais après, il vaut mieux...
Ni Liverpool. Ouais. Liverpool.
Mais il vaut mieux que tu perdes contre une belle équipe comme ça que contre le Rapide de Vienne ou quelque chose...
Ah ouais.
Ouais.
Ah bah une défaite, c'est une défaite.
Ce qui va se passer. Oui, mais c'est pour ça, il vaut mieux que ce soit Manchester United que, que les Astana, je sais pas quoi. Hein. Alors, le tirage au sort
Astana.
De l'Euro Astana. On est Astrana, il pourrait perdre contre Astrana. Le tirage de l'Euro 2016 de football qui s'est tenu ce samedi, le groupe de la France, France, Roumanie, Albanie, Suisse, Patrick, on est vernis. Hein.
Deschamps a de la chance parce que chaque fois que sur les tirages au sort, on peut pas dire qu'il est maudit ou loin de là. Et donc bon, trois équipes plus que faciles par rapport à ce que tu pouvais récupérer, vraiment. On va passer, il faut finir premier. Et même, je sais
attention,
pas si...
messieurs, vous parlez de facilité.
Ouais,
on a
non,
perdu contre l'Albanie, je vous rappelle, il y a quelques mois.
C'est vrai. Tu as raison, mais bon, il faut être prudent, c'est clair. Mais bon, si en plus, il risque d'y avoir trois qualifiés par groupe. Donc, si tu passes pas, mais si tu finis premier, en plus, tu peux te projeter. Et s'il n'y a pas trop de surprises, tu peux avoir un tableau vraiment dégagé jusqu'aux demi-finales où tu retrouverais l'Allemagne.
Ce qui serait bien, les autres, Anderlecht, Olympiakos. Allez, un 16e de finale de plus. Les autres groupes, Angleterre, Russie, Pays de Galles, Slovaquie. Le groupe C, Allemagne, Ukraine, Pologne, Irlande du Nord. Là aussi, on a l'impression que l'Allemagne tombe toujours avec la Pologne et que nous, on tombe toujours avec la Suisse.
Hein? C'est vrai.
C'est fou, ça. Espagne, République tchèque, Turquie, Croatie. Ouais.
C'est le plus gros, ça.
J'allais vous le demander. C'est plus gros que Belgique, Italie, Irlande, Suède?
Moi, je pense. Ouais, je pense que l'Espagne, c'est vraiment le groupe le plus compliqué. Parce que, bon, la République tchèque, c'est vraiment pas mal du tout. La Croatie, bon, ça peut, sur un match, ça peut partir tout azimut. Et puis, le quatrième.
La Turquie,
bon, là, bon, vraiment.
Turquie, c'est toujours dur.
Un bon pays de foot, hein, qui sera énormément supporté dans tous les stades français. Donc, oui, moi, pour moi, c'est un groupe vraiment très équilibré.
Aïe, Manchester United contre Midtjylland, c'est des Danois.
Bon.
Allez, c'est bon. Oui, Laurent, sur ces.
Laurent est rassuré.
Oui.
Portugal, Islande, Autriche, Hongrie. Je finis
bon, là, c'est tranquille. Hein.
Toi aussi, tu penses que c'est le plus dur, le groupe
non,
de l'Espagne?
Non. Pour moi, c'est le groupe de Belgique, Italie, Suède, où c'est vraiment ouvert.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Mais les quatre équipes sont. C'est d'un bon niveau. Bon, on sait très bien que l'Italie va faire que des 0-0, puis gagner un match volé contre l'air, par exemple, va passer. Mais après, pour trouver la deuxième place, chapeau, quoi.
Non, mais c'est vrai que tu vas y avoir un match Verratti-Ibrahimovic, ça promet.
Italie-Suède qui
ça promet.
Ça sera sympa.
Aïe, 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 Liverpool-Augsbourg.
Ah, ça va. Laurent est content aussi.
Finalement, alors ce match d'ouverture contre la Roumanie qui est extrêmement important, on parle de cette Roumanie qui a pris que deux buts, meilleure défense de l'Euro. Bon, personnellement, je les connais pas. Patrick.
Non, mais c'est ça. Avant la Roumanie, tu pouvais citer quelques joueurs. Voilà, il y a eu des.
Oui.
Il y a eu Moldovan qui a joué à Nantes, bon, qui était quand même un buteur pas mal au niveau européen. Donc, tu sentais qu'il y avait des individus. Les individualités dans cette équipe, là, impossible de vraiment citer un joueur qui fait partie du top niveau européen.
Comme la Suisse.
Bon, c'est un bloc vraiment défensif. Est-ce qu'on aura la capacité de casser ces blocs. En plus, on va jouer à domicile. Il faut voir, est-ce qu'on va jouer sur la rapidité de nos attaquants, style Martial, Griezmann, etc. Est-ce qu'il y aura Benzema, est-ce qu'il y aura Valbuena,
est-ce qu'il y aura Gignac,
ouais, est-ce qu'il y aura Gignac pour le moment,
est-ce que Giroud sera titulaire?
Est-ce que Giroud sera titulaire? Il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'équipe de France, mais bon, c'est vrai que si on n'a pas cette faculté à casser les blocs défensifs, on va se heurter, bien évidemment, à d'énormes difficultés pour aller loin dans ce rond.
Oui, parce que déjà, si on... il ne faudrait pas qu'on se fasse voler la poule par la Roumanie, quoi.
Ouais, c'est toujours compliqué. C'est... Oh, c'est très drôle. Aïe, 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 ça y est, Sparta de Prague, Krasnodar. Oui, c'est très drôle.
Quel pays, Krasnodar?
Je ne sais
Russie.
Pas. Russie, certainement, ouais. Oui, en tout cas, bon, tirage facile, va falloir faire attention à ce premier tour. Et après, c'est compliqué, j'ai vu que tu tombais contre le troisième de différents groupes.
Voilà, de trois groupes différents, ça dépendra du nombre de points qu'ils auront. Donc, tu peux pas le savoir jusqu'au moment de la compétition.
Ouais. Enfin, normalement, celui qui finit troisième, c'est pas... C'est à notre portée aussi, quoi.
Bah oui, 3 sur 4, surtout, ouais. Bon, ça veut dire que tu te qualifies un peu au raccro.
Si on regarde un petit peu comme ça, t'as Pays de Galles, Slovaquie, Pologne, Irlande du Nord, Turquie, Croatie, bon, là, on sait pas, Air Suède, on sait pas.
Non, mais tu auras.
Autriche-Hongrie, bon, tout est jouable.
Tu auras un huitième de finale, si tu finis premier, tu auras un huitième de finale tout à fait abordable, et même un quart de finale, à mon avis, aussi abordable.
Aïe, 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 Lazio de Rome, Galatasaray. C'est un beau match ça aussi.
Ouais.
C'était il y a pas match, si longtemps que ça, une affiche de Ligue des Champions. Bon, Galatasaray, il était encore cette année.
Un beau match dans les tribunes.
Oui, ça risque de faire mal dans les tribunes.
Il y aura des CRS.
Ouais. Qui va gagner cet Euro? Est-ce qu'on peut le gagner, Patrick?
Je pense qu'on peut le gagner, porté par un peu cette ferveur populaire, hein, parce que je pense que la France va se piquer au jeu. Bon, il va y avoir tout un tas d'animations dans les villes. Ça va faire bouger. Et puis donc, si l'équipe répond présent et propose un jeu attractif et que les victoires, si on fait un bon début de compétition, la mayonnaise peut vraiment se faire avec la population et ça peut nous porter jusqu'en finale. À mon avis, oui.
Est-ce qu'il faut que Benzema fasse partie de cette équipe de France, Patrick?
Non, pour moi, Benzema ne peut absolument plus faire partie de cette équipe avec ce qui s'est passé, même si bien sûr il n'est pas condamné, il y a la présomption d'innocence, etc., etc., etc. Mais bon, vu tout ce qui est sorti dans la presse, en particulier les écoutes téléphoniques, donc bon, là, c'est quand même, c'est pas des inventions, quoi. Bon, donc c'est quand même des choses qui ont été dites. Et bon, alors après, on peut dire qu'on plaisante, que ça dépassait la pensée, mais bon, c'est compliqué. Je vois pas en plus comment quelqu'un qui a un tel niveau financier, un entourage, des gens qui s'occupent d'eux 24/24, je me demande qu'on peut se retrouver embarqué dans une histoire comme ça, se retrouver au milieu du... Parce qu'au final, au début, il n'est pas concerné, il se retrouve là, bon.
C'est des petits
ça me paraît complètement hallucinant, et donc moi, pour moi, Benzema ne peut plus rejouer en équipe de France, même pour l'Euro, mais je dis même, voilà, c'est quand même... Pour moi, ça crée international.
Quand on n'a pas un esprit des collectifs de groupe, une vie de groupe saine.
C'est vrai, ouais. Comme lui, exactement raison, ouais, tout à fait.
Tu peux pas l'inviter à venir jouer une compète, quoi.
Ouais, donc
après, il faut se poser la question pour Valbuena. Qu'est-ce qu'on fait de Valbuena?
C'est une victime,
mais dans l'équipe, parce qu'il va pas avoir des railleries, des si, des mi. C'est pas évident de le prendre. Et puis,
non, mais c'est vrai que c'est une victime, mais bon, lui aussi, il aurait jamais dû se retrouver dans cette situation-là.
Voilà,
bon, moi, je sais pas. Peut-être que vous vous amusez aussi à vous filmer. Bon, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'en profite parce que ma femme, à 13h27, n'écoute plus qu'elle a repris le boulot. Donc, c'est pour ça que je peux en parler. Mais bon, je sais pas. Bon.
Oui,
voilà, bon, alors après, si c'est son trip, ok.
T'as un gros zoom.
Non, mais si c'est son trip, ok. Mais bon, là aussi, tu joues en équipe de France. Je sais pas comment tu peux avoir l'idée de faire des trucs comme ça. Enfin, bon, là aussi, ça me paraît complètement, même si c'est vrai, Ludo, tu as entièrement raison, c'est lui la victime. Donc, il ne faut pas qu'il soit pas sélectionné à cause de ça. Ça, c'est clair. Si Deschamps estime qu'il peut apporter l'équipe de France, eh bien, il doit le sélectionner. Mais bon, connaissant Deschamps, je pense qu'il sélectionnera ni l'un ni l'autre.
Après là, il a, je suis pas sûr qu'il ait le niveau. Ça y est, c'est tombé. Je suis pas sûr qu'il ait le niveau de l'équipe de France. Oh yeah, yeah, ça y est, on connaît l'Olympique de Marseille. Ça va être difficile. Tout d'abord, FC Sion, Braga. Comme ça, je fais durer le suspense. Shakhtar Donetsk, Schalke 04. L'Olympique de Marseille qui est tombé contre des Espagnols, contre un ancien club de Bielsa, contre
Athletic Bilbao.
Voilà, absolument. Marseille, Athletic Bilbao. Allez.
Bon match.
Ouais,
bon match. Sacré affiche. Hein. Qui, Mitchell est content. Hein.
Ils sont classés oui. Comment, là, Bilbao ?
Je crois qu'ils sont au milieu de tableau.
Milieu de tableau. Mais ils ont fait comme des belles performances dernièrement. Mm. Ouais. Ils n'ont pas fait match nul contre Ajaccio. Quoi.
D'ailleurs, il y a un Français qui joue un défenseur central qui s'appelle Laporte. Qui joue en espoir et qui est annoncé comme un futur très grand défenseur.
Mauvais tirage, hein. Quand même.
Oui, non, c'est vrai que pour une 16e de finale, un déplacement à Bilbao,
c'est compliqué. Surtout que tu reçois en premier, tu vas à l'extérieur.
Voilà, donc
après.
Encore plus.
Non, mais il vaut mieux perdre contre une grande équipe.
Je suis d'accord. Parce que ouais, tu te fais éliminer contre je t'en trouvais un.
Midtjylland,
Krasnodar. Ça la fout mal.
Ouais, hein ouais,
c'est bon, Bilbao, non, tu peux te dire. Allez. Mais ils peuvent passer. C'est,
oui.
Tu vois, Séville, ils viennent de tomber contre Molde.
Et jamais, une équipe espagnole est venue gagner à Marseille, hein, messieurs.
Ah bon.
Si le Real, je crois, en Ligue des Champions.
Oui, je crois que le Real, quand en Ligue des Champions.
Ronaldo est mis fan de 30 mètres à Mandanda.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais.
Ah, mais on va pas pouvoir parler de Saint-Etienne, là, hein, que c'est quasiment l'heure. Hein.
Ouais.
On reste une minute de plus pour savoir.
Mmh.
Ah, allez. Sporting Portugal, Bayer Leverkusen.
Là aussi, un gros match. Hein. Non, mais il y a des gros chocs.
Ouais.
Tu sais, mais pour cette minute là, on pourrait peut-être parler de l'arbitrage des matchs de Ligue 1 là, de cette semaine.
C'est vrai qu'il y a d'innombrables boulettes.
Ouais.
En particulier, l'arbitre que connaît très bien Laurent Coulon, notre ami Nicolas Renville. Bon. Une expulsion vraiment.
Il était trop près de l'action.
Inexistante, ça c'est clair. Et puis un but hors jeu, mais bon, là c'est plutôt son arbitre assistant qui était.
Bon, celle-là,
nous favorise. Bon.
Ouais, parce qu'on dit que ça s'équilibre. Montpellier s'est fait voler la semaine dernière à Marseille. Voilà, cette fois-ci, si Marseille se fait voler, alors que c'est pas totalement le cas.
Et Montpellier qui a gagné sur un double hors jeu contre
Guingamp.
Contre Guingamp aussi.
Absolument pas.
Double hors jeu sur le but de Ning.
Et Nantes,
Gilbert Montagnier.
T'as vu cette histoire de Nantes? Donc il y a un tir d'un joueur nantais. Le défenseur repousse de la main. L'arbitre le voit pas. Il a joué contre-attaque.
J'ai vu, c'est énorme.
Et donc l'attaquant, alors je sais plus contre qui jouait. L'attaquant inverse s'amène le ballon de la main et marque. Donc au lieu d'avoir pénalty et carton pour Nantes, tu te retrouves avec un but contre toi. Contre Toulouse, et en plus lui-même a fait une main pour s'amener le ballon.
Oui, c'est arrangé. Ouais.
Allez, on va finir sur le
tirage au sort. Je veux revenir, il n'y a même pas faute de Barada sur le carton rouge qu'il prend.
Oui, parce qu'il touche le ballon, puis après il y a un choc.
Il lève la jambe pour pas baisser l'adversaire.
Il y a un choc, c'est vrai, entre les deux joueurs.
Oui,
mais bon.
Mais à mon avis, ce monsieur Rémil n'a jamais joué au foot de sa vie. Parce qu'il
jouait au cheminot de Nîmes.
Écoutez,
d'ailleurs.
Les supporters stéphanois nous écoutent, attendent le tirage. Villarreal-Naples d'abord, la SSE est tombée contre le FC Bâle.
Ça va.
C'est jouable.
Oui.
C'est pas le club de l'ancien Parisien là, FC Bâle, du grand attaquant.
Non, c'est le Young Boys de Berne.
Ah oui.
Ouaro.
Voilà.
Non, le FC Bâle, c'est le club de Federer. Il est supporter du FC Bâle.
Ouais. Et ouais, mais bon.
Normal, pour un joueur de tennis. Pour un joueur de tennis, c'est normal.
Allez, merci les gars d'être restés en notre compagnie.
Merci à vous.
C'est la dernière de l'année.
Nos auditeurs vont croire qu'on est sur Rire et Chanson aujourd'hui. Là.
Ouais,
vous êtes bien sur 48 FM.
On s'est un peu lâché, mais normalement, il y a la rigueur d'Aurélien et de Luc, tu vois,
qui sont très sérieux.
Donc maintenant qu'ils ne sont pas là, on peut se lâcher.
La défense tout-terrain, tout ça, tout, on ne connaît pas tout ça.
On se revoit.
Allez, Golden State a perdu, Laurent. Je sais que tu voulais en parler, mais Golden State a perdu.
Alors, Golden State a perdu de très peu, mais est toujours classé 10e.
Non, c'est Portland, Golden State, c'est ceux qui sont premiers.
C'était un piège.
Golden State a perdu son 25e. Enfin,
oui, 24 victoires et une défaite.
24 victoires, une défaite.
C'est ce que tu avais pronostiqué, je crois. Hein.
À quelque chose près. Mais Portland, puisque moi je suis, vous savez maintenant, Portland, qui a gagné brillamment, alors je ne sais plus contre qui. Et toujours 10e au classement, un chouïa des qualifs.
Oui, parce que c'est les 8 premiers.
Les 8 premiers.
Mais ils y seront. Mais la saison est longue encore.
Voilà.
Faut laisser faire. Ouais. Le 4 janvier, on se retrouve.
4 janvier.
Bien sûr.
Hein, avec 4 bon janvier, pied, on fêtera
on
le
signé,
nouvel
an. On a signé un contrat, hein, Laurent, juste avant de commencer l'émission. Là.
Ouais. Bon, deux semaines de pause, voilà, on va boire de l'eau.
On a signé pour 2016.
Pour 2016 sont revenus. Ouais. Les basketteurs ne seront pas revenus. Là.
Mais si, ils seront revenus.
Si, quand même. Si.
Il y en a un qui est parti faire du ski, il n'y a pas de neige. Donc, à mon avis, dans 3 jours, il est de retour. Et celui qui nous écoute, je ne sais pas, il fait des allers-retours à Paris. À mon avis, il a une maîtresse là-bas.
Il y a quelque chose.
Il y a quelque chose, c'est une histoire de fesses.
On les embrasse en tout cas.
Allez, c'est parti, ciao les gars.
Bye bye.
Salut.
C'est les Street John au couloir numéro 2. Allez, les Street. C'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
FM 48 FM.